Suivez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Meunier.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau voyage sur la planète économie en pleine ébullition, c'est le mot. Vous avez peut-être vu les images mystérieuses de la mer Baltique près des gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui relient la Russie à l'Allemagne.
S'agit-il d'un sabotage ? Tout l'indique.
Mais de nombreuses questions restent sans réponse. À qui profitent les fuites de gazoducs ? Qui en est à l'origine ?
Les Russes, les Américains, quelqu'un d'autre ? On ne saura peut-être jamais avec certitude qui est responsable de ce scénario de fiction-réalité. Sur fond de guerre et de manœuvres spéculatives, nous autres terriens assistons impuissants à cette tragédie énergétique aux conséquences insoupçonnées. Les Européens tentent de colmater les brèches. L'Allemagne débloque 200 milliards d'euros pour plafonner les prix du gaz et de l'électricité, sauver les budgets des ménages et des entreprises au bord de la crise de nerfs, pas seulement les européennes. Le tout dans un contexte plus que mouvant. Le roi dollar bat des records, les autres monnaies en pâtissent. La livre sterling, le Royaume-Uni en plein débat fiscal par ailleurs. La roupie indienne, la livre d'Égypte ou le won sud-coréen. Même la Chine s'inquiète pour son yuan. Revenons à ce gaz et à cette électricité qui circule dans les veines de nos économies. Qui pourra en bénéficier dans les mois qui viennent et à quel prix ? Comment fixer un tarif alors que de semaine en semaine et au fil des événements géopolitiques, les cours fluctuent à grande vitesse ? On va en parler dès le début de cette émission avec une grande spécialiste, Anna Créti. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, directrice scientifique de la chaire d'économie du gaz naturel et de la chaire économie du climat. De l'énergie au climat, il n'y a qu'un pas. En effet, à l'heure des grandes pénuries, comment échapper aux combustibles dits fossiles, le charbon, le pétrole ou le gaz naturel qui accélèrent le dérèglement climatique ? Après la sécheresse, voici les ouragans, les cyclones et les typhons. Mais cette transition énergétique, au-delà des incantations, il faut la financer et la financer sans se tromper. De la transparence, de la sincérité, c'est ce que l'on demande aux entreprises, aux banques, aux institutions financières en général. 7 ans après l'accord de Paris qu'il a fait connaître au grand public, la finance verte est attendue au tournant de la COP27 dans quelques semaines à Sharm el-Cheikh. Certains en parlent comme d'une arnaque. Ont-ils raison et comment faire pour leur donner tort ? Une autre invitée à mes côtés dans les studios de RFI, Sandra Rigaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences économiques à l'Université Sorbonne Paris-Nord, chercheur associé à la chaire Énergie et Prospérité. Vous êtes l'auteur de plusieurs publications. Transparence climatique, où en sont les entreprises françaises ? Un article paru dans la revue The Conversation. Et puis, plus récemment, un ouvrage collectif aux éditions La Découverte intitulé L'industrie de la finance. Et puis, nous sommes aussi en ligne avec Maude Caillot. Bonjour.
Bonjour.
Après une formation en France et aux États-Unis, vous avez mené une carrière dans le luxe et dans la finance. Et puis, à l'âge de 25 ans, pour réaliser votre engagement environnemental, vous avez fondé, c'était en 2019, une néobanque, Green Got. Son slogan, ne laissez plus votre argent financer le réchauffement climatique. Vous nous direz comment vous en êtes certaine. Pourquoi, Maude Caillot, ce nom Green Got ?
Alors, ingot, ça veut dire lingot en anglais, et gringot, c'est le lingot vert.
Et nous allons donc essayer ensemble de voir aussi le vert à moitié plein, car même si beaucoup reste à faire, la cause progresse. Finances vertes, transparence climatique, où en sont les acteurs économiques ? Émission à retrouver sur notre site internet rfi.fr à la page Éco d'ici, Éco d'ailleurs, à partager sur Facebook et sur Twitter via notre compte RFI Éco. Un salut amical à nos abonnés, toujours plus nombreux. Beaucoup de commentaires après notre émission de la semaine dernière sur le cacao, celle aussi d'il y a 15 jours sur la dette, des sujets que nous allons continuer de suivre naturellement. Bonne émission à toutes et à tous. Première question à l'économiste spécialiste des questions énergétiques que vous êtes, Anna Créti. Un secteur difficile à suivre en ce moment. Les cours du pétrole plutôt à la baisse, ceux du gaz globalement à la hausse, tout comme ceux de l'électricité. Est-ce possible de déterminer des tendances lourdes dans ce contexte ?
Disons que c'est vrai qu'il est difficile de distinguer la volatilité de ces marchés qui est vraiment inhérente à la façon dont ces commodités sont échangées et ces fameuses tendances lourdes. Alors les tendances lourdes, si je les traduis en langage plus économique, ça serait les bonnes vieilles questions de la demande et de l'offre. Mais aujourd'hui, on est dans un cadre où ce qu'on appelle les sentiments des investisseurs, justement, ça fera facilement les liens avec la deuxième partie, sont aussi importantes que les besoins physiques de gaz, électricité et pétrole. Donc, les cours de ces matières, il n'est pas seulement déterminé par le fait qu'il y a, concernant le gaz, cette position très, très particulière de la Russie. Concernant l'électricité, une très forte volatilité du fait aussi du lien entre le gaz et l'électricité, et le pétrole qui réagit aussi fortement aux annonces sur les taux d'intérêt aux États-Unis que sur les confinements en Chine. Donc c'est vrai que ces tendances lourdes sont difficiles à décrypter.
Il va falloir suivre les cours du gaz, par exemple, comme quand on investit à la bourse. Il va falloir parier.
Ça a été toujours comme ça, en fait. La création des marchés de l'électricité et du gaz ont quand même financiarisé un peu ces biens. Et on a oublié peut-être au fur et à mesure de cette financiarisation qu'à la fin, il y a quand même une consommation qui se fait au jour le jour et en temps réel, en particulier pour l'électricité. Et la crise actuelle a mis un peu un grand zoom sur ce que moi j'appelle l'ignorance énergétique, sur le fait qu'on ne s'est posé pas du tout des questions sur nos habitudes de consommation.
Et sur la rareté de ces ressources.
Qui aurait pensé qu'une fois qu'on allume même le fameux Wi-Fi, il y a derrière une consommation d'électricité, un appel d'électricité qui vient peut-être de la centrale à gaz, aujourd'hui très décriée. Donc c'est vrai qu'on est face à un moment où plus que je pense suivre les cours, parce que cela est vraiment compliqué, et c'est un peu quand même un travail, entre guillemets, des spécialistes, mais suivre nos habitudes de consommation devient vraiment important.
Les gouvernements, ils tentent de rassurer, c'est compliqué, avec toutes ces incertitudes, une fuite dans des gazoducs, des brouilles diplomatiques, tout peut être remis en cause du jour au lendemain. C'est compliqué aujourd'hui d'être dirigeant politique dans ce contexte.
Oui, parce qu'on est au cœur de la difficulté de la transition aussi. C'est une crise politique, une crise économique et une crise énergétique. Et cela met vraiment en avant la complexité de coordonner deux objectifs qui sont d'avancer de façon efficace et cohérente et rapide vers la décarbonisation de l'économie. Et d'autre part, en les faisant de façon inclusive, c'est-à-dire de anticiper et aussi prendre en compte les effets extrêmement régressifs de la transition. C'est-à-dire que s'il y a peut-être une tendance de fond qu'on doit retenir après tout, c'est le fait qu'à terme, l'énergie coûtera toujours cher.
Et même les énergies renouvelables.
Tout, parce que il faut investir. Donc,
justement, la France, qui est accusée de ne pas avoir anticipé, qui aujourd'hui dit qu'il faut investir vite dans l'éolien offshore, dans l'hydrogène.
C'est une accélération qui ne va pas être indifférente. C'est un nouveau capital qui doit être mobilisé, construit, surtout quand on a cet effet de rattrapage. On va le voir de façon massive. Alors, il y a ça veut dire que les secteurs financiers, ils voient aussi des opportunités. Tout un cadre qui permet de faciliter ces investissements. Mais qui dit investissement, dit quand même aussi une sorte de concentration de certaines ressources dans les énergies renouvelables, plus à terme, l'hydrogène. Mais aussi, il faudra s'occuper aussi de démanteler les centrales fossiles existantes.
Le charbon.
Le
qui revient en force en Europe. Est-ce qu'il peut être rentable aujourd'hui, le charbon?
Alors aujourd'hui, on n'a pas parlé du cours du charbon. Mmh. Il reste quand même relativement rentable. Il y a des tensions, surtout que voilà, il n'y a pas, comme toute énergie fossile, les nombres de producteurs sont relativement limités. Mais c'est une énergie qui, certes, a augmenté, mais moins que les autres. Si on regarde le mix énergétique mondial, le charbon reste quand même extrêmement prioritaire. Et on peut se réjouir de la percée des énergies renouvelables. Ce qui est intéressant dans les renouvelables, c'est plutôt le taux de croissance. Mais à niveau de part dans le mix énergétique, on n'y est pas du tout.
Revenons au gaz, Anna Créti. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois, du gaz algérien que convoitent les Européens, les Américains aussi d'ailleurs. Sonatrach a finalement décidé de réajuster ses prix avec l'Italie et avec l'Espagne, les remettre au niveau du marché, en finir avec ces contrats à long terme. Le gaz algérien va être plus cher, moins intéressant ?
Alors, ces fameux contrats sont des pièces juridiques extrêmement compliquées, qui sont fondées sur les pouvoirs de négociation d'une partie et de l'autre, donc de l'acheteur et du vendeur. Et en ces moments, Sonatrach a fait un jeu très intéressant, c'est-à-dire qu'elle a capturé une rente sur le fait de fournir à l'Italie et d'autres investisseurs aussi qui ont participé à cette affaire, par exemple aussi Total Energy. Donc ils ont assuré un volume et derrière avec une formule de prix qui fait partie des enjeux de négociation entre les parties prenantes, mais qui est toujours indexée, donc qui est liée avec des valeurs de référence au cours du marché européen. Donc une fois qu'on a donné la sécurité d'approvisionnement, eh bien on joue sur la valeur. Et c'est vrai aussi que en faisant ces derniers contrats, derniers dans le sens aussi temporel que sur l'engagement des volumes, l'Algérie arrive aussi à sa capacité de production maximale, à ressources constantes, à investissement constant. Elle a déjà fait savoir que éventuellement il y aurait de quoi continuer à investir. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait pas faire. Mais pour ce qui est des puits, on va dire, en activité, elle arrive à saturation, elle ne pourra pas augmenter sa fourniture, donc ses volumes de livraison. Donc, bien sûr, elle va jouer le jeu
de capitaliser au maximum sur ses ressources existantes. Dernière question sur le gaz. Le gaz norvégien, est-ce que c'est un espoir pour les Européens s'ils sont privés du gaz russe? On a vu que la Pologne avait fêté l'inauguration d'un nouveau gazoduc avec la Norvège.
Oui, le même jour où on a eu les explosions. Ouais.
Voilà.
Et c'est vrai que la Norvège arrive aussi à capacité maximale. Et l'été, l'année dernière, hein, dans la même période, elle avait subi un très grand accident, ce qui avait temporairement diminué sa capacité de livrer vers l'Europe. Là, maintenant, elle arrive effectivement avec cette nouvelle infrastructure et le terminal méthanier flottant aussi donc polonais qui va servir pour tous les pays dits enclavés. Elle arrive donc aussi à la capacité maximale qu'elle peut fournir, sachant qu'en ce moment, il y a toute une procédure de sûreté. Donc, je n'arrive pas à dire qu'elle suspend les livraisons en attendant de comprendre ce qui s'est passé sur Nord Stream 1 et 2, mais elle est quand même sur les qui-vivent.
Tout le monde est sous pression, si vous me permettez le jeu de mots.
Tout à fait.
Vous restez avec nous, Anna Créti. Voilà qui nous mène à la suite de notre discussion. Comment voir maintenant sur le long terme, nous chauffer, certes, avoir de la lumière, mais financer la transition énergétique et écologique, la finance verte, où en est-on? Courte pause dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs. On se retrouve avec nos autres invités.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bruno Faure.
Soyons collectivement au rendez-vous, maintenant, plus que jamais. Make our planet great again est une possibilité, pas seulement dans les mots, dans la réalité.
Make our planet great again, redisait Emmanuel Macron il y a tout juste 2 ans, à l'heure où Donald Trump s'apprêtait à quitter à reculons le pouvoir. Le président français qui se veut le chantre de la finance durable, même si ses détracteurs voient en lui un des pires pollueurs de l'Europe, trop souple avec les entreprises les moins vertueuses. Et bien justement, ces entreprises plus ou moins vertes, on va en parler avec l'économiste Sandra Rigaud. Rebonjour.
Bonjour, rebonjour.
Vous êtes notamment spécialiste des questions de transparence climatique, la transparence financière des entreprises et des banques. Est-ce qu'elle a globalement progressé depuis l'accord de Paris en 2015? Est-ce que la France a été précurseur?
Alors oui, de ce point de vue, la COP21 a été un tournant, puisque avant, il y avait des divulgations d'informations qui étaient requises de la part des entreprises sur la dimension environnementale, mais le climat était le parent pauvre. Donc en fait, depuis la COP21, vous avez eu un bond en avant sur ces questions-là. Nous, on a regardé avec mes co-auteurs, Samira Demaria et Jeanne Amar, si en gros la transparence et divulgation d'informations des entreprises au regard des risques et des opportunités climatiques avaient augmenté depuis la COP21. Donc on l'a fait sur le CAC 40, sur les entreprises du CAC 40. Et effectivement, on observe une amélioration, mais on partait de très loin. Et alors, on a essayé d'élargir cette étude à l'échelle mondiale. Là encore, on observe sur une trentaine de pays, on observe une augmentation de la transparence, mais de fortes disparités selon les pays, selon les zones géographiques, bien sûr, et selon les secteurs.
Ce qui a fait avancer aussi les choses, c'est ce qu'on appelle la TCFD. On va écouter celui qui a été à l'initiative de ce mouvement. C'est le milliardaire américain Michael Bloomberg, connu pour ses activités de philanthropie. TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, qui est censé permettre de mieux évaluer la transparence financière des entreprises. On l'écoute.
At the TCFD, we've created standards for businesses.
Au TCFD, nous avons instauré des normes pour les entreprises, fournies aux créanciers, assureurs et investisseurs des informations essentielles sur les conséquences du changement climatique. La bonne nouvelle, c'est que plus de 15 000 entreprises du secteur public et privé ont pris nos recommandations en compte. Les chefs de gouvernement, les superviseurs et les régulateurs ont également annoncé des politiques, des partenariats ou un soutien à la circulation d'informations sur le climat, et chaque dirigeant a fait de la durabilité et de la résilience un élément clé de son plan de relance économique. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Les investisseurs, les actionnaires, les entreprises, les gouvernements et les institutions financières ont un rôle important à jouer et j'espère que notre action les aidera à travailler ensemble pour mieux comprendre les risques climatiques afin de progresser davantage.
Un long chemin encore à parcourir, nous dit Michael Bloomberg. Est-ce qu'il faut de nouveaux outils, de nouveaux indicateurs, Sandra Rigaud?
Oui. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur cette initiative parce qu'elle est importante, parce qu'elle a mis l'accent sur le secteur financier. Depuis, en fait, la TCFD, on considère que le secteur financier a un rôle majeur à jouer pour financer, évidemment, la transition économique, mais aussi, il peut être impacté par les risques liés au changement climatique, par la dévalorisation des actifs dans les entreprises qui reposent sur les énergies fossiles. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il faut regarder les divulgations des entreprises non financières, mais aussi des institutions financières comme les banques et les assureurs. C'est vraiment important.
Qui aujourd'hui annonce des coûts faramineux, des catastrophes naturelles.
Exactement. Et d'ailleurs, les institutions financières en ont pris conscience. Et c'est pour ça qu'elles partaient très bas en 2015. Et elles ont vraiment augmenté leur transparence climatique. Le deuxième point très important de la TCFD, c'est que jusqu'à présent, les reportings soutenables se focalisaient sur l'impact environnemental des activités des firmes. Là, avec la TCFD, on a aussi comment le risque climatique peut impacter l'entreprise. Et donc, on a cette double matérialité qui est vraiment importante et qu'on retrouve maintenant dans les reportings climatiques qui sont imposés aux entreprises. Depuis 2015 à 2012, en fait, on a quand même pas mal évolué. C'est-à-dire qu'avant, c'était les recommandations, elles sont non contraignantes. Les recommandations de la TCFD, elle a été suivie par l'Union européenne dans les textes communautaires. Et donc là, ça oblige en fait les entreprises, qu'elles soient financières et non financières, à être beaucoup plus transparentes. Alors après, je reviens sur le chemin est long, parce que ce n'est pas parce qu'on est transparent qu'on va changer de comportement.
Eh oui. Est-ce que vous diriez que l'information financière passe mieux aujourd'hui entre les dirigeants d'entreprises, financières ou non, et les investisseurs? C'est ça aussi le nœud.
Ah oui.
Si on dit la vérité, forcément, l'investisseur est mieux informé et il peut décider en connaissance de cause.
Oui, la transparence climatique, elle a un enjeu majeur à la fois pour les investisseurs, mais aussi pour les dirigeants d'entreprises, pour les questions de gouvernance. Pour les investisseurs, c'est important parce que s'ils ne sont pas suffisamment informés sur les risques climatiques qui sont encourus par les entreprises dans lesquelles ils investissent, eh bien, ils vont perdre de l'argent. Donc, en fait, cette information, elle est absolument cruciale. Cette information extra-financière est cruciale pour réallouer leur portefeuille. De la même manière, elle est cruciale pour le top management pour pouvoir initier des stratégies qui soient en ligne directe avec des scénarios à 1,5 degré. Donc ça, c'est vraiment important. Mais le problème, c'est la nature de l'information qui est divulguée. Vous pouvez avoir beaucoup d'informations et arriver à une situation d'opacité totale. Donc il faut qu'il y ait des conditions à ces divulgations, il faut qu'elles soient fiables, comparables, pour pouvoir vraiment permettre à ces investisseurs, mais aussi au top management, aux dirigeants, de prendre des décisions qui permettent d'aller dans le sens de la transition bas carbone.
Il faut les motiver financièrement, ces dirigeants-là, en fonction des résultats climatiques.
On a déjà eu un précédent.
Si on peut les évaluer.
On a déjà eu un précédent, c'est-à-dire qu'on a normalisé l'information financière. Là, maintenant, ce qui reste à faire, c'est qu'on a essayé d'harmoniser. Ça fait 5-6 ans qu'on harmonise. On voit bien que ça ne va pas assez loin, puisque quand vous regardez l'augmentation de la transparence climatique des firmes, si elles ont atteint leurs objectifs, on n'a pas avancé. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une augmentation des divulgations d'informations qu'on va atteindre davantage. Donc, ça veut dire qu'il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est aller vers une normalisation de l'information extra-financière. C'est-à-dire pour l'extra-financier, ce qu'on a fait pour les financiers il y a quelques décennies.
Comment est-ce qu'on peut calculer le bilan carbone d'une banque ? C'est extrêmement compliqué.
Alors oui. Ça, c'est, je sais pas, il faudrait peut-être demander à la personne que vous avez invitée.
Oui, on va demander à Maud Caillot, qui est elle-même banquière.
La difficulté de rendre plus fiables ces informations, ces divulgations climatiques, c'est que c'est d'abord aussi les méthodologies, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui soit universellement reconnue, parce que c'est extrêmement compliqué, ne serait-ce que de calculer les émissions directes, indirectes, qu'on appelle de scope 1, scope 2, scope 3. Par exemple, sur les émissions indirectes, qui sont les plus cruciales pour vraiment avoir une idée de la responsabilité de la firme sur l'impact climatique, on n'a pas vraiment de méthode. Et le régulateur a besoin d'une méthode qui soit vraiment acceptée par tous pour pouvoir imposer cet indicateur dans la réglementation. Donc vous voyez que c'est... Le chemin est encore long.
On va poser la question à Maud Caillot. Sandra Rigaud vient de nous dire, en gros, on est à la préhistoire de la transparence climatique, ou au Moyen-Âge peut-être, pour être positif. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est sûr qu'on en est au tout début. Il y a cette opacité un peu traditionnelle et historique du secteur financier et bancaire, qui fait qu'il est très difficile de savoir exactement où l'argent va, ce qu'il permet, comment est-ce qu'on suit, même au sein d'une entreprise qui a été financée, exactement ce que permet le financement. Mais certaines ONG et certaines institutions s'y sont risquées quand même et ont regardé quelles étaient les émissions qui avaient été permises en fait par les activités de financement et d'investissement des banques et ont réussi à établir en fait une émission, une empreinte carbone par euro dans cette banque en question.
Et pour ce qui vous concerne, vous, à Gringotts, vous qui avez créé une banque qui se veut plus durable, quelles garanties vous apportez à vos clients et aux investisseurs ?
Alors, nous, en fait, on a créé Gringotts justement du constat que nos banques avaient un rôle absolument primordial dans le changement climatique actuel, puisqu'elles ont aujourd'hui entre les mains le nerf de la guerre, l'argent, donc ce qui façonne le monde, ce qui construit notre monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, nos banques dirigent encore massivement leur financement, leurs investissements vers les énergies fossiles. Or, on sait que c'est la première cause du réchauffement climatique. Et donc, nous, on a essayé de créer Gringotts justement en contradiction avec ça, en faisant en sorte de rediriger les flux financiers vers la transition écologique et énergétique. Parce que c'est pas l'argent qui intrinsèquement pollue. Je parle pas là de l'infrastructure bancaire, je parle vraiment de ce qu'on fait de l'argent. Et donc, si aujourd'hui l'argent fait partie du problème, demain il peut aussi être un incroyable catalyseur de solutions et financer la transition qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent pour apparaître. Donc avec Gringotts, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête de financer les énergies fossiles. Donc il n'y a pas un seul euro qui va vers les énergies fossiles et on redirige une partie des fonds vers la transition, donc des projets de transition.
Anna Créti, je vous ai vu acquiescer tout à l'heure. Les banques, éléments essentiels de la finance verte, est-ce qu'elles y ont trouvé leur intérêt ? Comment vous voyez ça en tant qu'économiste spécialiste du climat ?
Bah, il y a une opportunité parce que c'est vrai qu'il y a quand même une demande dans les financements de nouvelles infrastructures vertes. Il y a aussi un cadre qui est encore assez balbutiement, qui est celui de la taxonomie européenne, qui s'appuie justement sur les activités financières pour favoriser les investissements également de transition. Mais il y a beaucoup de confusion et je suis d'accord avec Sandra. Il y a presque un discours un peu bipolaire, c'est-à-dire que d'une part, il y a énormément d'efforts pour encadrer le non financier. Par exemple, moi, je participe aux travaux de l'Observatoire de la finance durable où on essaye de construire des batteries d'indicateurs, mais on se rend compte qu'une fois face à ces indicateurs, nous disent « oui, c'est très bien, mais c'est très difficile ». Donc, il y a un peu cette résistance du secteur, qui est aussi un peu la résistance du secteur fossile. Hein. Je veux dire, si je regarde de façon historique la réaction et le choc du monde fossile à l'annonce des objectifs d'intégration des énergies renouvelables dans la consommation finale, ça a été également un choc. Mais on a su le piloter, ce choc.
La résistance des énergies fossiles, je voudrais vous faire réagir à un exemple, ou plutôt un contre-exemple, hein, venu du Texas. Bonjour Thomas Harms.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant. Là-bas, 10 banques internationales sont dans le collimateur de l'autorité financière. Elles sont accusées d'être trop vertes, de trop soutenir les énergies renouvelables.
Effectivement, hein, parmi elles, on trouve BNP Paribas, le Crédit Suisse, la Banque danoise, des banques suédoises ou encore BlackRock et UBS. Selon Glenn Egar, le directeur financier du Texas, ces 10 banques boycottent les entreprises de l'énergie non verte. Il faut dire qu'il y a un an, les législateurs républicains avaient réclamé l'interdiction d'opérer des sociétés qui ne soutiennent pas l'industrie fossile. C'est en effet un des piliers de l'économie texane et représente un tiers du PIB de l'État. L'autorité financière menace maintenant d'interdire à ces banques ou toute autre entreprise qui aurait réduit ou supprimé son investissement dans l'industrie fossile d'avoir une quelconque relation avec les institutions gouvernementales texanes. Une mesure loin d'être anodine. Le principal fonds de retraite pour les enseignants a ainsi placé 200 milliards de dollars dans ces organismes financiers. Les banques visées répondent-elles avoir investi des dizaines de milliards de dollars dans des projets liés à l'énergie fossile et ne pratiquer aucun boycott ? Pour elle, c'est une manipulation politicienne. Le directeur financier du Texas, le State Comptroller, joue sa place aux élections de mi-mandat début novembre.
Merci Thomas Harms, bonne journée quand même. Maud Caillot, cet exemple texan, est-ce que ça vous donne l'impression d'être une goutte d'eau dans un océan mondial avec les Américains qui ont ce genre d'attitude ? On sait très bien qu'en Inde ou en Chine, la finance verte n'a pas progressé énormément non plus ces dernières années.
Alors cet exemple texan, il est choquant absolument à double titre. Le premier, c'est à quel point le Texas ne va pas du tout dans le sens de l'histoire, mais on peut imaginer que c'est une sorte de chant du cygne. En effet, le Texas est tellement dépendant des énergies fossiles que ça l'ennuie un petit peu, que les banques commencent à devoir communiquer sur le fait qu'elle désinvestisse d'énergie fossile. Donc c'est un petit peu une sorte de grosse colère. En revanche, ce qui est encore plus choquant, c'est que du coup, la réaction des organismes financiers, notamment BlackRock ou BNP, qui se défendent en disant « si, on investit encore dans les énergies fossiles ». Donc déjà, il y a une double communication absolument incroyable et un pied de nez immense à ma génération et à toutes celles qui arrivent. La BNP Paribas qui est justement dans cette liste des banques trop vertes. En 2018, c'est 16 milliards investis dans les énergies fossiles, alloués aux énergies fossiles. En 2019, c'est 28 milliards. En 2020, c'est 40 milliards. Vous dites que la Chine n'est pas vraiment plus avancée en énergie verte. Ces chiffres-là, c'est devant Bank of China. La France, on est le troisième pays qui soutient le plus les énergies fossiles via nos banques, derrière les États-Unis et la Chine. Donc on n'est pas très avancé non plus en finance verte, malgré l'ambition de notre président et du gouvernement de faire de Paris la place de la finance verte. Et quand on regarde un petit peu les chiffres au niveau macro, nos quatre plus grandes banques françaises, elles émettent près de 5 fois plus l'équivalent de l'empreinte carbone de notre pays chaque année. Donc si on dit que la France, c'est 1%, 1,5% des émissions mondiales des gaz à effet de serre, nos quatre plus grandes banques françaises permettent d'émettre, elles, plus de 4%
des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors la Chine a évidemment beaucoup aussi de défauts, va lancer encore plus de centrales à charbon et tout, mais on a vu aussi une descente. Ça fait 4 semestres d'affilée que les émissions de gaz à effet de serre de la Chine diminuent. Alors évidemment, il y a une conjonction vraiment de situation très un peu exceptionnelle, mais il y a aussi un développement immense des énergies renouvelables qui commence à petit à petit remplacer dans le mix électrique le carboné en Chine.
Sandra Rigaud, beaucoup de greenwashing, comme on dit, chez les banques françaises, et européennes, et occidentales.
Oui, mais alors il faut le prouver pour pouvoir le dire. Oui, on peut présumer que, mais voilà, il faut pouvoir le prouver. Moi, je voulais juste dire deux choses. C'est que ce que j'observe en regardant un peu la communication et puis la divulgation d'informations extra-financières, ne serait-ce que des entreprises du CAC 40, c'est que si les investisseurs, les institutions financières, se vantent d'augmenter la part de leurs investissements dans les énergies propres, en fait, ce qu'on voit moins dans les rapports, c'est qu'elles continuent aussi à investir autant, voire plus, dans les énergies fossiles. Or, si on veut que la transition énergétique avance, il faudrait que la part des énergies propres augmente relativement à la part des énergies fossiles.
C'est
et donc
pas
ça,
tout à fait le cas.
Et ça, c'est pas le cas. Et donc, vous voyez le greenwashing, parce qu'en fait, elles communiquent sur leurs énergies, mais elles communiquent sur les énergies propres, tout ce qu'elles font pour les énergies propres, mais elles le font pas sur les énergies fossiles.
Je fais du vélo, mais je pars quand même en vacances à l'autre bout du monde en avion.
Oui, mais là, si on est une banque, ça veut dire, ou une compagnie d'assurance, ça veut dire qu'on finance des entreprises là, qui polluent beaucoup plus que... Et le deuxième point que je voulais donner, un exemple, c'est que si vous regardez le CAC 40, en fait, les entreprises du CAC 40 se situent sur un scénario plutôt de réchauffement de 4,5 degrés. Donc on est très loin... Quand même, en 2019, c'était le cas. Donc, on est très loin des 1,5 degré. Et pourtant, leur transparence climatique augmente depuis 2015. Donc, on n'y est pas. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas de greenwashing, mais on peut dire qu'il y a quand même un fossé entre les divulgations qui sont faites. En gros, quand c'est bien, on divulgue. Mais quand c'est pas bien pour le climat, on divulgue pas. Et c'est là, encore une fois, que le normalisateur extra-financier doit intervenir pour obliger à divulguer des informations qui nous permettent d'avoir vraiment une idée des efforts réels fait par l'entreprise pour aller vers une transition énergétique.
Formons des journalistes pour enquêter sur le greenwashing et sur l'information financière de ces entreprises. Les économistes Anna Créti et Sandra Rigaud, Maud Caillot, fondatrice de la néobanque Gringotts, sont les invités d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Je voudrais que l'on se penche à présent sur le rôle des banques centrales et des banques de développement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Exemple avec la Banque africaine de développement, la BAD, qui propose des prêts pour divers projets sur le continent et qui détaille sa stratégie pour s'assurer de leur qualité environnementale. Charlotte Cosset du service économie de RFI a pu joindre le docteur Alamdou Doursouma, directeur du département climat et croissance verte à la BAD.
La BAD a commencé ce processus, ça fait à peu près 10 ans déjà, pour s'assurer que la dimension climat soit prise en compte dans toutes ses opérations. Nous avons mis en place des mécanismes pour évaluer nos projets lorsqu'ils sont en train d'être conçus, pour s'assurer que ces projets remplissent 3 critères. 1. Est-ce qu'il y a des risques climatiques? Ça peut être la sécheresse, ça peut être l'inondation, ça peut être un cyclone, etc. Deuxièmement, nous évaluons également nos projets sur une grille en termes d'empreinte carbone. Est-ce que le projet que nous sommes en train de préparer ne va pas avoir plus d'empreinte carbone en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Et le troisième, quel est l'apport en termes de finance climat de ce projet? Et quel est le potentiel que ce projet a à mobiliser de la finance climat externe? Et récemment, depuis l'année dernière, nous avons adopté une nouvelle politique et une nouvelle stratégie sur le climat pour la période 2021-2030, où nous avons encore renforcé la nécessité de verdir, entre guillemets, nos investissements. Un engagement majeur que nous avons pris l'année dernière, c'est de nous assurer que nos projets d'ici 2023 jusqu'à 2025 puissent être alignés sur les objectifs de l'accord de Paris.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas compter sur la BAD pour financer un projet pétrolier?
Déjà, la BAD n'a pas été très présente dans le secteur pétrolier depuis longtemps. Depuis 2009, nous n'avons pas investi dans une centrale à charbon, par exemple. Et nous avons formalisé cela l'année dernière à travers un amendement à notre politique énergétique pour stopper tout investissement dans cette technologie. Et d'ailleurs, dans le secteur de l'énergie, quand on prend le portefeuille de la BAD, il y a eu un changement important, significatif, sur les 10 dernières années, où notre portefeuille énergie est essentiellement orienté énergie renouvelable, plus de 80 à 85%. Donc, nous sommes en train de nous diriger beaucoup plus vers des investissements verts, que ce soit dans le secteur de l'énergie, que ce soit dans le secteur des transports, des infrastructures, ou même dans le secteur agricole où nous sommes en train de mettre en place un nouveau concept, le concept d'une agriculture climato-résiliente. Donc, c'est quelque chose qui est en train de fondamentalement changer la structuration, la façon à travers laquelle nous préparons, nous concevons et nous mettons en œuvre nos projets de développement.
Agir sur tous les paramètres et dans tous les domaines, nous dit la Banque africaine de développement, Anna Kreti, y compris en Afrique, particulièrement concernée par les conséquences du réchauffement climatique.
Oui, c'est vrai que le cas de l'Afrique est particulier d'une part parce que historiquement, ça fait partie des pays qui n'ont pas émis autant que les nôtres dans la trajectoire.
C'est ce qu'ils disent, ils insistent beaucoup en ce moment là-dessus.
Mais qui subissent en grande partie, et on a eu un aperçu cet été avec la sécheresse, et il faut l'amplifier fois 1000 de ce qui se passe en Afrique. Et ils ont un contexte particulier, ils ont besoin en fait, ils ont une perspective de croissance qui n'est plus la nôtre. C'est quand même la nouvelle Chine, c'est l'Afrique. Et donc, il y a un besoin d'infrastructures extrêmement important. Et en fait, cette initiative de l'ABAD, elle est intéressante dans la mesure où, fondamentalement, elle dit, bon, on ne va pas faire les mêmes erreurs. Donc, on va prendre directement un chemin plus vertueux. Mais c'est difficile. Là aussi, donc chaque choix économique, financier et aussi politique, il y a un problème, par exemple, en Afrique, véritablement, d'électrification. Donc, c'est pas comme nous, nous avons vraiment, on vit dans les luxes et l'excès. En Afrique, seulement 40% de la population a accès à l'électricité.
Ils disent on a le droit au développement, donc ne nous empêchez pas.
Et donc, la question se pose de dire comment ces contraintes climatiques qui sont tout à fait importantes, justement si on se projette au taux de croissance démographique actuelle, à l'importance de l'Afrique, de prendre un chemin qui soit déjà plus, je ne dis pas vert à 100%, mais plus vert de celui que nous avons parcouru, sachant qu'en Afrique, il y a quand même des ressources fossiles.
Aussi. Et qu'il compte encore investir là-dedans, pays par pays. Sandra Rigaud, l'exemple de l'ABAD, nécessité aussi d'une forte transparence. On sait aussi que le fonds vert, les investissements qui sont faits sur le sol africain sont parfois critiqués pour ce manque de transparence.
Oui, encore une fois, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est un outil de régulation, c'est divulgation d'informations. Et votre invité parlait de l'évaluation ex post des projets, ou je ne sais plus si c'était dans le reportage, mais si on n'a pas d'indicateur, en fait, on peut pas. Donc, on a beau dire qu'on va investir dans des projets qui va dans le sens de la transition, si on ne peut pas le vérifier ex post, ça n'a aucun intérêt.
Il faut vérifier sur le terrain. Il faut envoyer des équipes, il faut faire des groupes de travail.
Alors, moi, nous, on a travaillé avec Dominique Plion sur ce qu'on appelle les intermédiaires financiers publics, donc tout ce qui est banque d'investissement, banque de développement nationale, et notamment sur les leaders européens, fonds d'investissement et banques d'investissement. Et en fait, on s'est rendu compte que la prise de conscience de ces questions climatiques, elles étaient très tardives, donc en gros, c'est très récent, que c'était très inégal, parce que quand vous regardez les banques de développement publics, en fait, le climat, ce n'est pas forcément leur priorité absolue, c'est une question plutôt de développement, d'accès à l'énergie, d'accès à l'eau, etc., qui sont plus prioritaires. Et donc, le climat n'est pas le sujet, en fait, la question prioritaire pour ces institutions. Et quand elles le sont, en fait, on a généralement des déclarations de bonnes intentions, de réduction d'émissions. Mais en fait, on retrouve les mêmes problèmes qu'avec les sociétés non financières qu'on a dans les pays développés. C'est-à-dire qu'on observe un fossé entre ce qu'on aimerait faire et ce qu'on met en place concrètement pour atteindre ces objectifs. Et le dernier point que je voulais aussi dont je voulais aussi parler, c'est que souvent en fait ces institutions reposent en fait souvent délèguent en fait le financement aux institutions financières privées. Donc en fait, si vous déléguez à des banques ou des assureurs privés, même si apparemment vous avez une mission qui peut se différencier parce que vous êtes plus intéressé par le long terme, parce que vous êtes des institutions publiques. En fait, le fait de déléguer l'investissement et le placement...
C'est prendre le risque...
De retomber dans les mêmes errements qu'on a à court termiste des institutions financières des pays développés. Donc en fait, il y a aussi un problème de gouvernance, de gouvernance des fonds, c'est-à-dire comment l'argent est concrètement géré si vous la confiez à des institutions financières qui n'ont pas les mêmes préoccupations que les institutions financières publiques, ça ne peut pas changer les comportements.
Maud Caillot, comment vous réagissez? Est-ce que ça vous donne envie aussi de vous implanter, de prospecter sur d'autres continents, l'Afrique, pourquoi pas?
Alors oui, avec grand plaisir. Très clairement, il y a beaucoup de choses à faire absolument partout dans le monde, Afrique compris. Après, moi, en tant que du coup créatrice d'une institution financière, je dois aussi voir les choses sous l'œil réglementaire, compliance et tout ça. Et il faut savoir que traverser des continents, c'est toujours... il y a toujours de grandes contraintes à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer en Europe et un jour, nous allons peut-être traverser la Méditerranée ou l'Atlantique.
Avant de se quitter, je voudrais juste qu'on évoque l'attitude des banques centrales à Nakreti et notamment de la Banque Centrale Européenne qui vient d'annoncer qu'elle va moduler ses achats d'obligations d'entreprise pour favoriser les emprunteurs qui émettent le moins de gaz à effet de serre. Est-ce que c'est un cap pour la BCE? Est-ce que c'est une étape importante?
Là aussi,
on sait que les banques centrales sont aussi très critiquées.
Sont aussi très critiquées, c'est vrai, parce que on n'a pas complètement compris quel rôle elles peuvent avoir. On a parlé des institutions privées, publiques, du rôle de la réglementation. Et donc, l'autre acteur quand même du verdissement du secteur financier sont les banques centrales. Donc là aussi, je me suis intéressée parce que dans ces questions de financement de la transition et des fossiles, c'est important de voir quelle est la caution qui est donnée par la Banque Centrale Européenne. Et en étudiant l'évolution en fait aussi de la communication, on a vu que progressivement, c'est un tabou qui a été élevé. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne a commencé à communiquer sur cette volonté d'être présente dans les domaines des investissements verts seulement à partir de 2017. Et si on fait le même exercice, par exemple, chez la Fed, donc l'équivalent aux États-Unis, il n'y a pas de communication qui puisse être significative sur ces questions. Donc, les banques centrales sont, entre guillemets, des vieilles institutions. Mmh. Et s'exposer à cette nouvelle discipline est assez révolutionnaire. Après, c'est quelque chose qu'on a vu venir. Donc, ça fait 2 ans. Que cette position est discutée au sein de la Banque Centrale Européenne et s'est portée progressivement sur quels instruments la Banque Centrale Européenne peut mettre sur la table pour avoir son propre rôle. Donc on a parlé des actions comme la monnaie verte et ça a quand même un impact inflationniste dont on n'a sûrement pas besoin en ce moment. Donc au lieu d'avoir une perfusion directe dans le capital et dans la création de monnaie, on va dire, plus visée sur les secteurs verts, les choix ont été portés sur la sélection. Donc, c'est l'importance de l'ex-ante dont on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on appelle le stress climatique, qui devient aujourd'hui un exercice fondamental pour la gouvernance des banques.
On parlait il y a quelques minutes du niveau de préoccupation, des priorités. C'est vrai qu'en ce moment, les banques centrales ont beaucoup à faire avec l'inflation. Certains pourront dire la politique de verdissement des banques centrales, ça n'est pas la priorité.
Si on ne fait pas converger toutes les forces, qu'elles soient du côté économique et financier sur la transition, on n'y arrivera pas. Donc c'est vrai que chacun peut avoir son domaine, on va dire, de prédilection ou de légitimité prioritaire, mais on n'a peut-être pas véritablement encore compris que on est face, on ne l'appelle pas révolution, parce que c'est tellement important que ce n'est pas quelque chose qu'on pourra faire du jour au lendemain, mais c'est une transition qui est véritablement globale. Donc toutes les institutions financières, y compris les banques centrales et les banques publiques, ont leur pierre à apporter à l'édifice.
Merci, merci à toutes les trois. Anna Créti, professeure d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, directrice scientifique de la chaire économie du gaz naturel et de la chaire économie du climat. Sandra Rigaud, maître de conférence en sciences économiques à l'Université Sorbonne Paris-Nord, chercheur associé à la chaire énergie et prospérité. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'industrie de la finance, aux éditions La Découverte. Et puis Maud Caillot, cofondatrice de Gringotts, cette néobanque engagée dans la transition écologique. Bonne chance à votre entreprise.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Bruno Faure.
La finance climatique au cœur des enjeux de la COP27, la première sur le sol africain, ce sera à partir du 6 novembre à Sharm el-Cheikh, dispositif exceptionnel. Sachez-le déjà sur RFI et RFI.fr. On parlera aussi des solutions, dont fait partie l'hydrogène, une priorité pour la chef du gouvernement français.
Avec l'hydrogène, nous pourrons décarboner massivement notre économie, nous pourrons faire émerger une nouvelle filière, synonyme d'emploi durable et d'indépendance énergétique. J'ai confiance dans notre future filière d'hydrogène. Construisons-la ensemble. Je vous remercie.
Elisabeth Borne qui annonce 10 projets pour plus de 2 milliards d'euros. La France veut devenir la championne de l'hydrogène décarboné. Je vous propose d'en savoir plus sur l'hydrogène par électrolyse, c'est-à-dire en fracturant les molécules d'eau avec de l'électricité. Une technologie déjà mise en œuvre dans l'ouest de la France par la start-up LHYFE, L-H-Y-F-E, qui veut la développer au large des côtes. L'hydrogène offshore, reportage de Pauline Glaise.
Une plateforme métallique jaune officiellement inaugurée dans le port de Saint-Nazaire. Antoine Hamon, directeur général adjoint de LHYFE, présente ce que la jeune entreprise spécialisée dans l'hydrogène vert revendique comme une première mondiale.
On a donc le premier site de production d'hydrogène renouvelable offshore. C'est posé sur une barge. Cette barge, elle fait 15 mètres de large et 20 mètres de long. Et dessus, on a un électrolyseur de 1 MW qui va avoir la capacité de production d'à peu près 400 kg d'hydrogène par jour. Alors l'électrolyseur, c'est le gros conteneur jaune qui est en plein milieu. Et vous avez un conteneur qui va traiter l'électricité. Et de l'autre côté, vous avez le traitement de l'eau.
Après une première phase d'essai de quelques mois à quai, la plateforme sera envoyée en mer à 20 km au large des côtes et connectée à une éolienne flottante pour des vérifications en conditions réelles. L'entreprise qui a construit l'électrolyseur a dû s'adapter. C'est aussi le travail de Jeps Techno qui fournit la plateforme. Ce n'est pas une barge standard, explique Jean-Luc Longeroche, son président.
Nous avons développé il y a maintenant 2 ans une plateforme qui est une plateforme houlomotrice, c'est-à-dire qu'elle récupère l'énergie de la houle pour en faire de l'électricité. Dans le cadre de la production d'hydrogène, on a été amené à limiter les mouvements de la plateforme, ce qui est un peu concurrent à notre objectif de production d'énergie. Donc il a fallu trouver un compromis entre avoir du mouvement pour nous produire l'énergie et limiter les mouvements pour que LHYFE puisse produire dans de bonnes conditions l'hydrogène à bord.
Alors pourquoi produire dans ces conditions plutôt qu'à terre ? Parce que l'énergie éolienne produite au large est potentiellement plus importante, mais pas seulement.
Aujourd'hui, ce qui coûte très cher dans les parcs, c'est de ramener l'électricité à terre. Ce qu'on peut faire avec l'hydrogène, en convertissant l'électricité directement sur place en hydrogène, c'est d'une, ramener l'hydrogène plus facilement à terre et de façon plus économique. Et en plus, ça va nous permettre d'aller plus loin et donc en dehors des zones visibles, ce qui permet une acceptabilité beaucoup plus forte pour ces parcs éoliens.
Pendant la période d'essai, le dit hydrogène ne sera pas valorisé. Ensuite, dans une phase de commercialisation, il pourrait être ramené à terre, comme pour le gaz naturel, par pipeline ou par bateau. À quel prix ? La jeune pousse qui a fait son entrée en bourse au printemps dernier ne donne pas de chiffres précis.
Ce qui est sûr, c'est que quand on va massifier la production de cet électrolyseur et qu'on va le faire en mer, là on va avoir des chutes de prix, ce qu'on attend dans les prochaines années pour rendre vraiment l'hydrogène à la fois écologique et compétitif.
Le projet SeaLHYFE, projet de plusieurs millions d'euros, a reçu l'aide de la région Pays de la Loire et de l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie. Pour favoriser l'émergence du secteur, LHYFE s'attelle aussi à construire un écosystème autour d'elle. D'ailleurs, la demande progressant, Life va augmenter la production de son premier site à terre plus rapidement que prévu.
Reportage de Paul Inglès du service économie de RFI à Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France. Voilà, on se quitte très provisoirement. La semaine prochaine, un grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, nous recevrons le financier ivoirien Stanislas Zézé, fondateur de Bloomfield Investment, première agence de notation africaine. Son portrait, signé Olivier Roger, est d'ailleurs à retrouver sur notre page Facebook RFI Echo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée sur RFI. Portez-vous bien.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.